Voltaire, 25e lettre philosophique sur les pensées de M. Pascal. Je vous envoie les remarques critiques que j'ai faites depuis longtemps sur les pensées de M. Pascal. Ne me comparez point ici, je vous prie, à Ézéchias, qui voulut faire brûler tous les livres de Salomon. Je respecte le génie et l'éloquence de Pascal, mais plus je les respecte, plus je suis persuadé qu'il aurait lui-même corrigé beaucoup de ses pensées qu'il avait jetées au hasard sur le papier pour les examiner ensuite. Et c'est en admirant son génie que je combats quelques-unes de ses idées. Il me paraît qu'en général l'esprit dans lequel M. Pascal écrivit ses pensées était de montrer l'homme dans un jour odieux. Il s'acharne à nous peindre tous méchants et malheureux. Il écrit contre la nature humaine à peu près comme il écrivait contre les jésuites. Il impute à l'essence de notre nature ce qui n'est qu'à certains hommes. Il dit élogamment des injures au genre humain. J'ose prendre le parti de l'humanité contre ce misanthrope sublime. J'ose assurer que nous ne sommes ni si méchants, ni si malheureux qu'il le dit. Je suis de plus très persuadé que s'il avait suivi dans le livre qu'il méditait le dessin qui paraît dans les pensées, il aurait fait un livre plein de paralogismes éloquents et de faussetés admirablement déduites. Je crois même que tous ces livres qu'on a faits depuis peu pour prouver la religion chrétienne sont plus capables de scandaliser que d'édifier. Ces auteurs prétendent-ils en savoir plus que Jésus-Christ et les apôtres? C'est vouloir soutenir un chêne en l'entourant de roseaux. On peut écarter ces roseaux inutiles sans craindre de faire tort à l'arbre. J'ai choisi avec discrétion quelques pensées de Pascal. Je mets les réponses au bas. C'est à vous à juger si j'ai tort ou raison. 1. Les grandeurs et les misères de l'homme sont tellement visibles qu'il faut nécessairement que la vraie religion nous enseigne qu'il y a en lui quelques principes de grandeur et en même temps quelques principes de misère. Car il faut que la véritable religion connaisse à fond notre nature, qu'elle connaisse tout ce qu'elle a de grand et tout ce qu'elle a de misérable, et la raison de l'un et de l'autre. Il faut encore qu'elle nous rende raison des étonnantes contrariétés qui s'y rencontrent. Cette manière de raisonner paraît fausse et dangereuse, car la fable de Prométhée et de Pandore, les androgynes de Platon et les dogmes des Siamois rendraient aussi bien raison de ces contrariétés apparentes. La religion chrétienne n'en demeurera pas moins vraie, quand même on n'en tirerait pas ces ingénieuses idées qui ne peuvent servir qu'à faire briller l'esprit. Le christianisme n'enseigne que la simplicité, l'humanité, la charité. Vouloir le réduire à la métaphysique, c'est en faire une source d'erreur. 2. Qu'on examine sur cela toutes les régions du monde et qu'on voit s'il y en a une autre que la chrétienne qui y satisfasse. Sera-ce celle qu'enseignaient les philosophes qui nous proposent pour tout bien un bien qui est en nous? Est-ce le vrai bien? Ont-ils trouvé le remède à nos maux? Est-ce avoir guéri la présomption de l'homme que de l'avoir égalé à Dieu? Et ce qui nous égale aux bêtes et qui nous donne des plaisirs de la terre pour tout bien, ont-ils apporté le remède à nos concupiscences? Les philosophes n'ont point enseigné de religion. Ce n'est pas leur philosophie qu'il s'agit de combattre. Jamais philosophe ne s'est dit inspiré de Dieu, car dès lors il eût cessé d'être philosophe. Il ne s'agit pas de savoir si Jésus-Christ doit l'emporter sur Aristote. Il s'agit de prouver que la religion de Jésus-Christ est la véritable et que celle de Mahomet, des païens et toutes les autres sont fausses. Numéro 3. Et cependant, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses retours et ses plis dans l'abîme du péché originel, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. Est-ce raisonné que de dire l'homme est inconcevable sans ce mystère inconcevable? Mais pourquoi vouloir aller plus loin que l'Écriture? N'y a-t-il pas de la témérité à croire qu'elle a besoin d'appui et que ses idées philosophiques peuvent lui en donner? Qu'aurait répondu M. Pascal à un homme qui lui aurait dit « Je sais que le mystère du péché originel est l'objet de ma foi et non de ma raison. Je conçois fort bien, sans mystère, ce que c'est que l'homme. Je vois qu'il tient au monde comme les autres animaux, que l'accouchement des mères est plus douloureux à mesure qu'elles sont plus délicates, que quelquefois des femmes et des animaux femelles meurent dans l'enfantement, qu'il y a quelquefois des enfants mal organisés qui vivent privés d'un ou deux sens et de la faculté de raisonnement, que ceux qui sont le mieux organisés sont ceux qui ont les passions les plus vives, que l'amour de soi-même est égal chez tous les hommes et qu'il leur est aussi nécessaire que les cinq sens, que cet amour-propre nous est donné de Dieu pour la conservation de notre être et qu'il nous a donné la religion pour régler cet amour-propre, que nos idées sont justes ou inconséquentes, obscures ou lumineuses, selon que nos organes sont plus ou moins solides, plus ou moins, et selon que nous sommes plus ou moins passionnés, que nous dépendons en tout de l'air qui nous environne, des aliments que nous prenons, et que dans tout cela, il n'y a rien de contradictoire. L'homme n'est point une énigme, comme vous vous le figurez, pour avoir du plaisir à la deviner. L'homme paraît être à sa place dans la nature, supérieur aux animaux auxquels il est semblable par les organes, inférieur à d'autres êtres auxquels il ressemble probablement par la pensée. Il est, comme tout ce que nous voyons, mêlé de mal et de bien, de plaisir et de peine. Il est pourvu de passion pour agir et de raison pour gouverner ses actions. Si l'homme était parfait, il serait Dieu. Et ces prétendues contrariétés, que vous appelez contradictions, sont les ingrédients nécessaires qui entrent dans le composé de l'homme, qui est ce qu'il doit être. 4. Suivons nos mouvements, observons-nous nous-mêmes et voyons si nous n'y trouverons pas les caractères vivants de ces deux natures. Tant de contradictions se trouveraient-elles dans un sujet simple? Cette duplicité de l'homme est si visible qu'il y en a qui ont pensé que nous avions deux âmes, un sujet simple leur paraissant incapable de telles et si soudaines variétés, d'une présomption démesurée à un horrible abattement de cœur. Nos diverses volontés ne sont point des contradictions dans la nature, et l'homme n'est point un sujet simple. Il est composé d'un nombre innombrable d'organes. Si un seul de ces organes est un peu altéré, il est nécessaire qu'il change toutes les impressions du cerveau et que l'animal ait de nouvelles pensées et de nouvelles volontés. Il est très vrai que nous sommes tantôt abattus de tristesse, tantôt enflés de présomption, et cela doit être quand nous nous trouvons dans des situations opposées. Un animal que son maître caresse et nourrit, et un autre qu'on égorge lentement et avec adresse pour en faire une dissection, éprouvent des sentiments bien contraires. Aussi faisons-nous, et les différences qui sont en nous sont si peu contradictoires qu'il serait contradictoire qu'elles n'existassent pas. Les fous qui ont dit que nous avions deux âmes pouvaient par la même raison nous en donner 30 ou 40. Car un homme dans une grande passion a souvent 30 ou 40 idées différentes de la même chose et doit nécessairement les avoir selon que cet objet lui paraît sous différentes faces. Cette prétendue duplicité de l'homme est une idée aussi absurde que métaphysique. J'aimerais autant dire que le chien qui mord et qui caresse est double, que la poule qui a tant de soins de ses petits et qui ensuite les abandonne jusqu'à les méconnaître est double, que la glace qui représente à la fois des objets différents est double, que l'arbre qui est tantôt chargé, tantôt dépouillé de feuilles est double. J'avoue que l'homme est inconcevable, mais Tout le reste de la nature l'est aussi, et il n'y a pas plus d'apparence dans l'homme que dans tout le reste. 5. Ne pariez point que Dieu est, c'est parier qu'il n'est pas. Lequel prendrez-vous donc? Pesons le gain et la perte en prenant le parti de croire que Dieu est. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Pariez donc qu'il est, sans hésiter. Oui, mais il faut gager, mais je cache peut-être trop. Voyons, puisqu'il y a pareil hasard de gain et de perte, quand vous n'auriez que deux vises à deux gagner pour une, vous pourriez encore gager. Il est évidemment faux de dire « Ne point parier que Dieu est, c'est parier qu'il n'est pas. » Car celui qui doute et demande à s'éclairer ne parie absolument ni pour ni contre. D'ailleurs, cet article paraît un peu indécent et puéril. Cette idée de jeu, de perte et de gain ne convient point à la gravité du sujet. De plus, l'intérêt que j'ai à croire une chose n'est pas une preuve de l'existence de cette chose. Je vous donnerai, me dites-vous, l'empire du monde, si je crois que vous avez raison. Oh, je souhaite alors de tout mon cœur que vous ayez raison. Mais jusqu'à ce que vous me l'ayez prouvé, je ne puis vous croire. Commencez, pourrait-on dire à M. Pascal, par convaincre ma raison. Bon, j'ai intérêt, sans doute, qu'il y ait un Dieu. Mais si, dans votre système, Dieu n'est venu que pour si peu de personnes, si le petit nombre des élus est si effrayant, si je ne puis rien du tout par moi-même, dites-moi, je vous prie, quel intérêt j'ai à vous croire? N'ai-je pas un intérêt visible à être persuadé du contraire? De quel front osez-vous me montrer un bonheur infini auquel plus d'un million d'hommes, à peine un seul, a droit d'aspirer? Si vous voulez me convaincre, prenez-vous-y d'une autre façon. Et n'allez pas tantôt me parler de jeux de hasard, de paris, de croix et de piles, et tantôt m'effrayer par les épines que vous semez sur le chemin que je veux et que je dois suivre. Votre raisonnement ne servirait qu'à faire des athées, si la voix de toute la nature nous criait qu'il y a un Dieu avec autant de force que ses subtilités ont de faiblesse. 6. En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, et ses contrariétés étonnantes qui se découvrent dans sa nature, et regardant tout l'univers muet et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il y est en mourant, j'entre en effroi, comme un homme qu'on aurait emporté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître où il est, et sans avoir aucun moyen d'en sortir. Et sur cela j'admire comment on n'entre pas en désespoir d'un si misérable état. En lisant ces réflexions, je reçois une lettre d'un de mes amis qui demeure dans un pays fort éloigné. Voici ses paroles. Je suis ici comme vous m'y avez laissé, ni plus ni gai, ni plus triste, ni plus riche, ni plus pauvre, jouissant d'une santé parfaite, ayant tout ce qui rend la vie agréable, sans amour, sans avarice, sans ambition et sans envie, et tant que tout cela durera, je m'appellerai hardiment un homme très heureux. Il y a beaucoup d'hommes aussi heureux que lui. Il en est des hommes comme des animaux. Tel chien couche et mange avec sa maîtresse, tel autre tourne la broche et est tout aussi content, tel autre devient enragé et on le tue. Pour moi, quand je regarde Paris ou Londres, je ne vois aucune raison pour entrer dans ce désespoir dont parle M. Pascal. Je vois une ville qui ne ressemble en rien à une île déserte, mais peuplée, opulente, policée, et où les hommes sont heureux autant que la nature humaine le comporte. Quel est l'homme sage qui sera prêt à se pendre parce qu'il ne sait pas comment on voit Dieu face à face, que sa raison ne peut débrouiller le mystère de la Trinité? Il faudrait autant se désespérer de n'avoir pas quatre pieds et deux ailes. Pourquoi nous faire horreur de notre être? Notre existence n'est point si malheureuse qu'on veut nous le faire accroire. Regardez l'univers comme un cachot, et tous les hommes comme des criminels qu'on va exécuter, et l'idée d'un fanatique. Croire que le monde est un lieu de délices où l'on ne doit avoir que du plaisir, c'est la rêverie d'un sybarite. Penser que la terre, les hommes et les animaux sont ce qu'ils doivent être dans l'ordre de la Providence et, je crois, d'un homme sage. 7. Les Juifs pensent que Dieu ne laissera pas éternellement les autres peuples dans ses ténèbres, qu'il viendra un libérateur pour tous, qu'ils sont au monde pour l'annoncer, qu'ils sont formés exprès pour être les héros de ce grand événement et pour appeler tous les peuples à s'unir à eux dedans ce libérateur. Mais les Juifs ont toujours attendu un libérateur. Mais leur libérateur est pour eux et non pour nous. Ils attendent un Messie qui rendra les Juifs maîtres des chrétiens, et nous espérons que le Messie réunira un jour les Juifs aux chrétiens. Ils pensent précisément sur cela le contraire de ce que nous pensons. 8. La loi par laquelle ce peuple est gouverné est tout ensemble la plus ancienne loi du monde, la plus parfaite, et la seule qui ait toujours été gardée sans interruption dans un état. C'est ce que Philon, juif, montre en divers lieux, et Joseph, admirablement, contre Appion, où il fait voir qu'elle est si ancienne que le nom même de loi n'a pas été connu des plus anciens que plus de 1000 ans après, et en sorte qu'Homère, qui a parlé de tant de peuples, ne s'en est jamais servi. Et il est aisé de juger de la perfection de cette loi par sa simple lecture où l'on voit qu'on y a pourvu à toute chose avec tant de sagesse, tant d'équité, tant de jugement, que les plus anciens législateurs grecs et romains, en ayant quelques lumières, en ont emprunté leur principale loi, ce qui paraît par celle qu'ils appellent des 12 tables et par les autres preuves que Joseph en donne. Il est très faux que la loi des Juifs soit la plus ancienne, puisque avant Moïse, leur législateur, il demeurait en Égypte, le pays de la terre le plus renommé pour ses sages lois. Il est très faux que le nom de loi n'ait été connu qu'après Homère. Il parle des lois de Minos, le mot de loi est dans Hésiode. Et quand le nom de loi ne se trouverait ni dans Hésiode ni dans Homère, cela ne prouverait rien. Il y avait des rois et des juges, donc il y avait des lois. Il est encore très faux que les Grecs et les Romains aient pris des lois des Juifs. Ce ne peut être dans les commencements de leur république, car alors ils ne pouvaient connaître les Juifs. Ce ne peut être dans le temps de leur grandeur, car alors ils avaient pour ces barbares un mépris connu de toute la terre. 9. Ce peuple est encore admirable en sincérité. Ils gardent avec amour et fidélité le livre où Moïse déclare qu'ils ont toujours été ingrats envers Dieu et qu'il sait qu'ils le seront toujours encore plus après la mort, mais qu'il appelle le ciel et la terre à témoin contre eux qu'il leur a assez dit. Qu'enfin Dieu, s'irritant contre eux, les dispersera par tous les peuples de la terre, et que comme ils l'ont irrité en adorant des dieux qui n'étaient point leurs dieux, il les irritera en appelant un peuple qui n'était point son peuple. Ce livre qui les déshonore en tant de façons, ils le conservent aux dépens de leur vie, c'est une sincérité qui n'a point d'exemple dans le monde, ni sa racine dans la nature. Cette sincérité a partout des exemples et n'a sa racine que dans la nature. L'orgueil de chaque juif est intéressé à croire que ce n'est point sa détestable politique, son ignorance des arts, sa grossièreté qu'il a perdu, mais que c'est la colère de Dieu qui le punit. Il pense avec satisfaction qu'il a fallu des miracles pour l'abattre et que sa nation est toujours la bien-aimée du Dieu qui la châtie. Qu'un prédicateur monte en chair et dise aux Français Vous êtes des misérables qui n'avez ni cœur ni conduite. Vous avez été battus à Hallstatt et à Ramis parce que vous n'avez point su vous défendre. Il se fera lapider. Mais s'il dit, vous êtes des catholiques chéris de Dieu, vos péchés infâmes avaient irrité l'Éternel qui vous livra aux hérétiques à Hallstatt et à Ramilly, mais quand vous êtes redevenu au Seigneur, alors il a béni votre courage à Denain. Ces paroles le feront aimer de l'auditoire. 10. S'il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui et non les créatures. Il faut aimer très tendrement les créatures. Il faut aimer sa patrie, sa femme, son père, ses enfants. Et il faut si bien les aimer que Dieu nous les fait aimer malgré nous. Les principes contraires ne sont propres qu'à faire de barbares raisonneurs. 11. Nous naissons injustes, car chacun tend à soi. Cela est contre tout ordre. Il faut tendre au général, et la pente vers soi est le commencement de tout désordre en guerre, en police, en économie, etc. Cela est selon tout ordre. Il est aussi impossible qu'une société puisse se former et subsister sans amour-propre, qu'il serait impossible de faire des enfants sans concupiscence, de songer à se nourrir sans appétit, etc. C'est l'amour de nous-mêmes qui assiste l'amour des autres. C'est par nos besoins mutuels que nous sommes utiles au genre humain. C'est le fondement de tout commerce et l'éternel lien des hommes. Sans lui, il n'y aurait pas eu un art inventé, une société de 10 personnes formées. C'est cet amour propre que chaque animal a reçu de la nature qui nous avertit à respecter celui des autres. La loi dirige cet amour propre et la religion le perfectionne. Il est bien vrai que Dieu aurait pu faire des créatures uniquement attentives au bien d'autrui. Dans ce cas, les marchands auraient été aux Indes par charité, et le maçon huissier de la pierre pour faire plaisir à son prochain. Mais Dieu a établi les choses autrement. N'accusons point l'instinct qu'il nous donne, et faisons-en l'usage qu'il commande. 12. Le sens caché des prophéties ne pouvait induire en erreur, et il n'y avait qu'un peuple aussi charnel que celui-là qui s'y put méprendre. Car quand les biens sont promis en abondance, qui les empêchait d'entendre les véritables biens, sinon leur cupidité qui déterminait ce sens au bien de la terre? En bonne foi, le peuple le plus spirituel de la terre l'aurait-il entendu autrement? Ils étaient esclaves des Romains. Ils attendaient un libérateur qui les rendrait victorieux et qui ferait respecter Jérusalem dans tout le monde. Comment, avec les lumières de leur raison, pouvaient-ils voir ce vainqueur, ce monarque dans Jésus, pauvre et mis en croix? Comment pouvaient-ils entendre, par le nom de leur capitale, une Jérusalem céleste, eux, à qui le décalogue n'avait pas seulement parlé de l'immortalité de l'âme? Un peuple si attaché à sa loi pouvait-il, sans une lumière supérieure, reconnaître dans les prophéties qui n'étaient pas leur loi un Dieu caché sous la figure d'un juif circoncis qui, par sa religion nouvelle, a détruit et rendu abominable la circoncision et le sabbat, fondement sacré de la loi judaïque? Encore une fois, adorons Dieu sans vouloir percer dans l'obscurité de ses mystères. 13. Le temps du premier avènement de Jésus-Christ est prédit. Le temps du second ne l'est point, parce que le premier devait être caché, au lieu que le second doit être éclatant et tellement manifeste que ses ennemis même le reconnaîtront. Le temps du second avènement de Jésus-Christ a été prédit encore plus clairement que le premier. M. Pascal avait apparemment oublié que Jésus-Christ, dans le chapitre 21 de Saint-Luc, dit expressément « Lorsque vous verrez une armée environner Jérusalem, sachez que la désolation est proche. Jérusalem foulée aux pieds, il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles. Les flots de la mer feront un très grand bruit. Les vertus des cieux seront ébranlées. Et alors, ils verront le Fils de l'homme qui viendra sur une nuée avec une grande puissance et une grande majesté. Ne voilà-t-il pas le second avènement prédit distinctement? Mais si cela n'est point arrivé encore, ce n'est point à nous d'oser interroger la Providence. 14. Le Messie, selon les Juifs charnels, doit être un grand prince temporel. Selon les chrétiens charnels, il est venu nous dispenser des médieux et nous donner des sacrements qui opèrent tous en nous. Ni l'un ni l'autre n'est la religion chrétienne ni juive. Cet article est bien plutôt un trait de satire qu'une réflexion chrétienne. On voit que c'est aux jésuites qu'on en veut ici. Mais en vérité, aucun jésuite a-t-il jamais dit que Jésus-Christ est venu nous dispenser d'aimer Dieu. La dispute sur l'amour de Dieu est une pure dispute de mots, comme la plupart des querelles scientifiques qui ont causé des haines si vives et des malheurs si affreux. Il paraît encore un autre défaut dans cet article. C'est qu'on y suppose que l'attente d'un Messie était un point de religion chez les Juifs. C'était seulement une idée consolante répandue parmi cette nation. Les Juifs espéraient un libérateur, mais il ne leur était pas ordonné d'y croire comme article de foi. Toute leur religion était renfermée dans les livres de la loi. Les prophètes n'ont jamais été regardés par les Juifs comme législateurs. 15. Pour examiner les prophéties, il faut les entendre. Car si l'on croit qu'elles n'ont qu'un sens, il est sûr que le Messie ne sera point venu. Mais si elles ont deux sens, il est sûr qu'il sera venu en Jésus-Christ. La religion chrétienne est si véritable qu'elle n'a pas besoin de preuves douteuses. Or, si quelque chose pouvait ébranler les fondements de cette sainte et raisonnable religion, c'est ce sentiment de M. Pascal. Il veut que tout ait deux sens dans l'Écriture. Mais un homme qui aurait le malheur d'être incrédule pourrait lui dire « Celui qui donne deux sens à ses paroles veut tromper les hommes, et cette duplicité est toujours punie par les lois. Comment donc pouvez-vous, sans rougir, admettre dans Dieu ce qu'on punit et ce qu'on déteste dans les hommes? Que dis-je? Avec quel mépris et avec quelle indignation ne traitez-vous pas les oracles des païens, parce qu'ils avaient deux sens? Ne pourrait-on pas dire plutôt que les prophéties qui regardent directement Jésus-Christ n'ont qu'un sens, comme celles de Daniel, de Michée et autres? Ne pourrait-on pas même dire que, quand nous n'aurions aucune intelligence des prophéties, la religion n'en serait pas moins prouvée? 16. La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Mais il est à croire que M. Pascal n'aurait pas employé ce galimatia dans son ouvrage s'il avait eu le temps de le faire. 17. Les faiblesses les plus apparentes sont des forces à ceux qui prennent bien les choses. Par exemple, les deux généalogies de saint Matthieu et de saint Luc. Il est visible que cela n'a pas été fait de concert. Les éditeurs des pensées de Pascal auraient-ils dû imprimer cette pensée dont l'exposition seule est peut-être capable de faire tort à la religion? À quoi bon dire que ces généalogies, ces points fondamentaux de la religion chrétienne, se contrarient sans dire en quoi elles peuvent s'accorder? Il fallait présenter l'antidote avec le poison. Que penserait-on d'un avocat qui dirait « Ma partie se contredit, mais cette faiblesse est une force pour ceux qui savent bien prendre les choses. » 18. Qu'on ne nous reproche donc plus le manque de clarté, puisque nous en faisons profession, mais que l'on reconnaisse la vérité de la religion dans l'obscurité même de la religion, dans le peu de lumière que nous en avons et dans l'indifférence que nous avons de la connaître. Voilà d'étranges marques de vérité qu'apporte Pascal. Quelles autres marques, donc, le mensonge? Quoi? Il suffirait pour être cru de dire « je suis obscur, je suis inintelligible ». Il serait bien plus sensé de ne présenter aux yeux que les lumières de la foi au lieu de ces ténèbres d'érudition. 19. S'il n'y avait qu'une religion, Dieu serait trop manifeste. Quoi ? Vous dites que s'il n'y avait qu'une religion, Dieu serait trop manifeste ? Et oubliez-vous que vous dites à chaque page qu'un jour, il n'y aura qu'une religion ? Selon vous, Dieu sera donc, alors, trop manifeste ? 20. Je dis que la religion juive ne consistait en aucune de ces choses, mais seulement en l'amour de Dieu, et que Dieu réprouvait toutes les autres choses. Quoi ? Dieu réprouvait tout ce qu'il ordonnait lui-même avec tant de soin aux Juifs et dans un détail si prodigieux ? N'est-il pas plus vrai de dire que la loi de Moïse consistait et dans l'amour et dans le culte ? Ramenez tout à l'amour de Dieu, sans peut-être moins l'amour de Dieu que la haine que tout janséniste a pour son prochain moliniste. 21. La chose la plus importante à la vie, c'est le choix d'un métier. Le hasard en dispose. La coutume fait les maçons, les soldats, les couvreurs. Qui peut donc déterminer les soldats, les maçons et tous les ouvriers mécaniques, sinon ce qu'on appelle hasard et la coutume ? Il n'y a que les arts de génie auxquels on se détermine de soi-même. Mais pour les métiers que tout le monde peut faire, il est très naturel et très raisonnable que la coutume en dispose. 22. Que chacun examine sa pensée. Il la trouvera toujours occupée au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent, et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière, pour disposer l'avenir. Le présent n'est jamais notre but. Le passé et le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre objet. Il faut, bien loin de se plaindre, remercier l'auteur de la nature de ce qu'il nous donne cet instinct qui nous emporte sans cesse vers l'avenir. Le trésor le plus précieux de l'homme est cette espérance qui nous adoucit nos chagrins et qui nous peint des plaisirs futurs dans la possession des plaisirs présents. Si les hommes étaient assez malheureux pour ne s'occuper que du présent, on ne sèmerait point, on ne bâtirait point, on ne planterait point, on ne pourvoirait à rien, on manquerait de tout au milieu de cette fausse jouissance. Un esprit comme M. Pascal pouvait-il donner dans un lieu commun aussi faux que celui-là ? La nature a établi que chaque homme jouirait du présent en se nourrissant, en faisant des enfants, en écoutant des sons agréables, en occupant sa faculté de penser et de sentir, et qu'en sortant de ses états, souvent au milieu de ses états même, il penserait au lendemain, sans quoi il périrait de misère. 23. Mais quand j'y ai regardé de plus près, j'ai trouvé que cet éloignement que les hommes ont du repos et de demeurer avec eux-mêmes vient d'une cause bien effective, c'est-à-dire du malheur naturel de notre condition faible et mortelle et si misérable que rien ne nous peut consoler lorsque rien ne nous empêche d'y penser et que nous ne voyons que nous. Ce mot « ne voir que nous » ne forme aucun sens. Qu'est-ce qu'un homme qui n'agirait point et qui est supposé se contempler? Non seulement je dis que cet homme serait un imbécile, inutile à la société, mais je dis que cet homme ne peut exister, car que contemplerait-il? Son corps, ses pieds, ses mains, ses cinq sens? Ou il serait un idiot, ou bien il ferait usage de tout cela? Resterait-il à contempler sa faculté de penser? Mais il ne peut contempler cette faculté qu'en l'exerçant. Ou il ne pensera à rien, ou bien il pensera aux idées qui lui sont déjà venues, ou il en composera de nouvelles. Or, il ne peut avoir d'idées que du dehors. Le voilà donc occupé ou de ses sens ou de ses idées. Le voilà donc hors de soi et imbécile. Encore une fois, il est impossible à la nature humaine de rester dans cet engourdissement imaginaire. Il est absurde de le penser, il est insensé d'y prétendre. L'homme est né pour l'action, comme le feu tend en haut et la pierre en bas. N'être point occupé et n'exister pas est la même chose pour l'homme. Toute la différence consiste dans les occupations douces ou tumultueuses, dangereuses ou utiles. 24. Les hommes ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement et l'occupation au dehors, qui vient du ressentiment de leur misère continuelle. Et ils ont un autre instinct secret qui reste de la grandeur de leur première nature, qui leur fait connaître que le bonheur n'est en effet que dans le repos. Cet instinct secret étant le premier principe et le fondement nécessaire de la société, il vient plutôt de la bonté de Dieu et il est plutôt l'instrument de notre bonheur qu'il n'est l'instrument de notre misère. Je ne sais pas ce que nos premiers pères faisaient dans le paradis terrestre, mais si chacun d'eux n'avait pensé qu'à soi, l'existence du genre humain était bien hasardée. N'est-il pas absurde de penser qu'ils avaient des sens parfaits, c'est-à-dire des instruments d'action parfaits, uniquement pour la contemplation? Et n'est-il pas plaisant que des têtes pensantes puissent imaginer que la paresse est un titre de grandeur et l'action un rabaissement de notre nature? 25. C'est pourquoi, lorsque Cinéas disait à Pyrrhus, qui se proposait de jouir du repos avec ses amis après avoir conquis une grande partie du monde, qu'il ferait mieux d'avancer lui-même son bonheur en jouissant dès lors de ce repos, sans l'aller chercher par tant de fatigue, il lui donnait un conseil qui recevait de grandes difficultés et qui n'était guère plus raisonnable que le dessein de ce jeune ambitieux. L'un et l'autre supposaient que l'homme se pût contenter de soi-même et de ses biens présents, sans remplir le vide de son cœur d'espérance imaginaire, ce qui est faux. Pyrrhus ne pouvait être ni devant ni après avoir conquis le monde. L'exemple de Cinéas est bon dans les satires de Despréaux, mais non dans un livre philosophique. Un roi sage peut être heureux chez lui, et de ce qu'on nous donne à Pyrrhus pour un fou, cela ne conclut rien pour le reste des hommes. 26. On doit reconnaître que l'homme est si malheureux qu'il s'ennuierait même sans aucune cause étrangère d'ennui par le propre état de sa condition. Au contraire! L'homme est si heureux en ce point, et nous avons tant d'obligations à l'auteur de la nature qu'il a attaché l'ennui à l'inaction, afin de nous forcer par là à être utiles au prochain et à nous-mêmes. 27. D'où vient que cet homme, qui a perdu depuis peu son fils unique et qui, accablé de procès et de querelles, était ce matin si troublé, n'y pense plus maintenant? Ne vous en étonnez pas. Il est tout occupé à voir par où passera un cerf que ses chiens poursuivent avec ardeur depuis 6 heures. Il n'en faut pas davantage pour l'homme, quelque plein de tristesse qu'il soit. Si l'on peut gagner sur lui de refaire entrer en quelque divertissement, le voilà heureux pendant ce temps-là. Cet homme fait à merveille. La dissipation est un remède plus sûr contre la douleur que le quinquennat contre la fièvre. Ne blâmons point en cela la nature, qui est toujours prête à nous secourir. 28. Qu'on s'imagine un nombre d'hommes dans les chaînes et tous condamnés à la mort, dont les uns étaient chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leurs propres conditions dans celles de leurs semblables. Et, se regardant les uns les autres avec douleur et sans espérance, attendent leur tour. C'est l'image de la condition des hommes. Cette comparaison, assurément, n'est pas juste. Des malheureux enchaînés qu'on égorge l'un après l'autre sont malheureux non seulement parce qu'ils souffrent, mais encore parce qu'ils éprouvent ce que les autres hommes ne souffrent pas. Le sort naturel d'un homme n'est ni d'être enchaîné, mais tous les hommes sont faits, comme les animaux et les plantes, pour croître, pour vivre un certain temps, pour produire leurs semblables et pour mourir. On peut, dans une satire, montrer l'homme tant qu'on voudra du mauvais côté, mais pour peu qu'on se serve de sa raison, on avouera que de tous les animaux, l'homme est le plus parfait, le plus heureux, et celui qui vit le plus longtemps. Au lieu donc de nous étonner et de nous plaindre du malheur et de la brièveté de la vie, nous devons nous étonner et nous féliciter de notre bonheur et de sa durée. À ne raisonner qu'en philosophe, j'ose dire qu'il y a bien de l'orgueil et de la témérité à prétendre que par notre nature, nous devons être mieux que nous ne sommes. 29. Les sages parmi les païens qui ont dit qu'il n'y a qu'un Dieu ont été persécutés, les juifs haïs, les chrétiens encore plus. Ils ont été quelquefois persécutés, de même que le serait aujourd'hui un homme qui viendrait enseigner l'adoration d'un dieu indépendante du culte reçu. Socrate n'a pas été condamné pour avoir dit « il n'y a qu'un dieu », mais pour s'être élevé contre le culte extérieur du pays et pour s'être fait des ennemis puissants, fort mal à propos. À l'égard des Juifs, ils étaient haïs, non parce qu'ils ne croyaient qu'un Dieu, mais parce qu'ils haïssaient ridiculement les autres nations, parce que c'étaient des barbares qui massacraient sans pitié leurs ennemis vaincus, parce que ce vil peuple superstitieux, ignorant, privé des arts, privé du commerce, méprisait les peuples les plus policés. Quant aux chrétiens, ils étaient haïs des païens parce qu'ils tendaient à abattre la religion et l'empire, dont ils vinrent enfin à bout, comme les protestants se sont rendus les maîtres dans les mêmes pays où ils furent longtemps haïs et massacrés. 30. Les défauts de Montaigne sont grands. Il est plein de mots sales et déshonnêtes. Cela ne vaut rien. Ses sentiments sur l'homicide volontaire et sur la mort sont horribles. Montaigne parle en philosophe, non en chrétien. Il dit le pour et le contre de l'homicide volontaire. Philosophiquement parlant, quel mal fait à la société un homme qui la quitte quand il ne peut plus la servir? Un vieillard a la pierre et souffre des douleurs insupportables. On lui dit « Si vous ne vous faites tailler, vous allez mourir. Si l'on vous taille, vous pourrez encore radoter, baver et traîner pendant un an » à charge à vous-même et aux autres. Je suppose que le bonhomme prenne alors le parti de n'être plus à charge à personne. Voilà à peu près le cas que Montaigne expose. 31. Combien les lunettes nous ont-elles découvert d'astres qui n'étaient point pour nos philosophes auparavant? On attaquait hardiment l'écriture sur ce qu'on y trouve en tant d'endroits du grand nombre des étoiles. Il n'y en a que 1022, disait-on. Nous le savons. Il est certain que la Sainte Écriture, en matière de physique, s'est toujours proportionnée aux idées reçues. Ainsi, elle suppose que la Terre est immobile, que le Soleil marche, etc. Ce n'est point du tout par un raffinement d'astronomie qu'elle dit que les étoiles sont innombrables, mais pour s'accorder aux idées vulgaires. En effet, quoique nos yeux ne découvrent qu'environ 1022 étoiles, cependant, quand on regarde le ciel fixement, la vue éblouie croit alors en voir une infinité. L'écriture parle donc selon ce préjugé vulgaire, car elle ne nous a pas été donnée pour faire de nous des physiciens. Et il y a grande apparence que Dieu ne révéla ni à Habacuc, ni à Baruch, ni à Michée, qu'un jour un Anglais nommé Flamsteed mettrait dans son catalogue plus de 7000 étoiles aperçues avec le télescope. Est-ce courage à un homme mourant d'aller dans la faiblesse et dans l'agonie et affronter un Dieu tout-puissant et éternel? Cela n'est jamais arrivé, et ce ne peut être que dans un violent transport au cerveau qu'un homme dise « Je crois un Dieu et je le brave ». 33. Je crois volontiers les histoires dont les témoins se font égorger. La difficulté n'est pas seulement de savoir si on croira des témoins qui meurent pour soutenir leur déposition, comme ont fait tant de fanatiques, mais encore si ces témoins sont effectivement morts pour cela, si on a conservé leur déposition, s'ils ont habité les pays où l'on dit qu'ils sont morts. Pourquoi Joseph, né dans les temps de la mort du Christ, Joseph, ennemi d'Hérode, Joseph, peu attaché au judaïsme, n'a-t-il pas dit un mot de tout cela? Voilà ce que M. Pascal eut débrouillé avec succès, comme on fait depuis tant d'écrivains éloquents. 34. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle où se trouvent tous les hommes en naissant. L'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien et se rencontrent dans cette ignorance d'où ils étaient partis. Cette pensée est un pur sophisme, et la fausseté consiste dans ce mot d'ignorance, qu'on prend en deux sens différents. Celui qui ne sait ni lire ni écrire est un ignorant. Mais un mathématicien, pour ignorer les principes cachés de la nature, n'est pas au point d'ignorance dont il était parti quand il commença à apprendre à lire. M. Newton ne savait pas pourquoi l'homme remue son bras quand il le veut, mais il n'en était pas moins savant sur le reste. Celui qui ne sait pas l'hébreu et qui sait le latin est savant, par comparaison avec celui qui ne sait que le français. 35. Ce n'est pas être heureux que de pouvoir être réjoui par leur divertissement, car il vient d'ailleurs et de dehors, et ainsi il est dépendant et par conséquent sujet à être troublé par 1000 accidents qui font les afflictions inévitables. Celui-là est actuellement heureux qui a du plaisir, et ce plaisir ne peut venir que de dehors. Nous ne pouvons avoir de sensations ni d'idées que par les objets extérieurs, comme nous ne pouvons nourrir notre corps qu'en y faisant entrer des substances étrangères qui se changent en la nôtre. 36. L'extrême esprit est accusé de folie comme l'extrême défaut. Rien ne passe pour bon que la médiocrité. Ce n'est point l'extrême esprit, c'est l'extrême vivacité et volubilité de l'esprit qu'on accuse de folie. L'extrême esprit est l'extrême justesse, l'extrême finesse, l'extrême étendue, opposé diamétralement à la folie. L'extrême défaut d'esprit est un manque de conception, un vide d'idées. Ce n'est point la folie, c'est la stupidité. La folie est un dérangement dans les organes qui fait voir plusieurs objets trop vite ou qui arrête l'imagination sur un seul avec trop d'application et de violence. Ce n'est plus l'aide qui passe pour bonne, c'est l'éloignement des devises opposées, c'est ce qu'on appelle juste milieu et non médiocrité. 38. Si notre condition était véritablement heureuse, il ne faudrait pas nous divertir d'y penser. Notre condition est précisément de penser aux choses au sérieur avec lesquelles nous avons un rapport nécessaire. Il est faux qu'on puisse divertir un homme de penser à la condition humaine, car à quelque chose qu'il applique son esprit, il l'applique à quelque chose de lié nécessairement à la condition humaine. Et encore une fois, penser à soi avec abstraction des choses naturelles, ce n'est rien du tout, qu'on y prenne bien garde. Loin d'empêcher un homme de penser à sa condition, on n'entretient jamais que des agréments de sa condition. On parle à un savant de réputation et de science, à un prince de ce qui a rapport à sa grandeur, et à tout homme on parle de plaisir. 38. Les grands et les petits ont mêmes accidents, mêmes fâcheries et mêmes passions. Mais les uns sont au haut de la roue et les autres près du centre, et ainsi moins agités par les mêmes mouvements. Il est faux que les petits soient moins agités que les grands. Au contraire, leurs désespoirs sont plus vifs parce qu'ils ont moins de ressources. De 100 personnes qui se tuent à Londres, il y en a 99 du bas peuple et à peine une d'une condition relevée. La comparaison de la roue est ingénieuse et fausse. 39. On n'apprend pas aux hommes à être honnêtes gens et on leur apprend tout le reste. Et cependant, ils ne se piquent de rien tant que de cela. Ainsi, ils ne se piquent de savoir que la seule chose qu'ils n'apprennent point. On apprend aux hommes à être honnêtes gens, et sans cela peu parviendrait à l'être. Laissez votre fils prendre dans son enfance tout ce qu'il trouvera sous sa main à 15 ans. Il volera sur le grand chemin. Louez-le d'avoir dit un mensonge, il deviendra faux témoin. Flattez sa concupiscence, il sera sûrement débauché. On apprend tout aux hommes, la vertu et la religion. 40. Le sot projet que Montaigne a eu de se peindre, et cela non pas en passant et contre ses maximes, comme il arrive à tout le monde de faillir, mais par ses propres maximes et par un dessein premier et principal, car de dire des sottises par hasard et par faiblesse, c'est un mal ordinaire, mais d'en dire à dessein, c'est ce qui n'est pas supportable, et d'en dire de telle que celle-là. Le charmant projet que Montaigne a eu de se peindre naïvement, comme il a fait, car il a peint la nature humaine, et le pauvre projet de Nicole de Malebranche, de Pascal, de décrier Montaigne. 41. Lorsque j'ai considéré d'où vient qu'on ajoute tant de fois à tant d'imposteurs qu'ils disent qu'ils ont des remèdes, jusqu'à mettre souvent sa vie entre leurs mains, il m'a paru que la véritable cause est qu'il y a de vrais remèdes. Si jamais il n'y en avait eu et que tous les maux eussent été incurables, il est impossible que les hommes se fussent imaginés qu'ils en pourraient donner, et encore plus que tant d'autres eussent donné créance à ceux qui se fussent vantés d'en avoir. De même que si un homme se vantait d'empêcher de mourir, personne ne le croirait, parce qu'il n'y a aucun exemple de cela. Mais comme il y a eu quantité de remèdes qui se sont trouvés véritables par la connaissance même des plus grands hommes, la créance des hommes s'est pliée. Par là, parce que la chose ne pouvait être niée en général, puisqu'il y a des effets particuliers qui sont véritables, le peuple qui ne peut pas discerner lesquels d'entre ces effets particuliers sont les véritables les croit tous. De même, ce qui fait qu'on croit tant de faux effets de la lune, c'est qu'il y en a de vrais, comme le flux de la mer. Ainsi, il me paraît aussi évidemment qu'il y a tant de faux miracles, de fausses révélations, de sortilèges, que parce qu'il y en a de vrais. Il me semble que la nature humaine n'a pas besoin du vrai pour tomber dans le faux. On a imputé 1000 fausses influences à la lune avant qu'on imaginât le moindre rapport véritable avec le flux de la mer. Le premier homme qui a été malade a cru sans peine le premier charlatan. Personne n'a vu de loup-garou ni de sorcier, et beaucoup y ont cru. Personne n'a vu de transmutation de métaux, et plusieurs ont été ruinés par la créance de la pierre philosophale. Les Romains, les Grecs, tous les païens, ne croyaient-ils donc aux faux miracles dont ils étaient inondés que parce qu'ils en avaient vu de véritables ? 42. Le port règle ceux qui sont dans un vaisseau, mais où trouverons-nous ce point dans la morale ? Dans cette seule maxime reçue de toutes les nations, Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. 43. Ferox gens nullam se vitam sine armis putat. Ils aiment mieux la mort que la paix. Les autres aiment mieux la mort que la guerre. Toute opinion peut être préférée à la vie dont l'amour paraît si fort et si naturel. Ah, c'est des Catalans que Tacite a dit cela, mais il n'y en a point dont on ait dit et dont on puisse dire « Elle aime mieux la mort que la guerre. » 44. À mesure qu'on a plus d'esprit, on trouve qu'il y a plus d'hommes originaux. Les gens du commun ne trouvent pas de différence entre les hommes. Il est très peu d'hommes vraiment originaux. Presque tous se gouvernent, pensent et sentent par l'influence de la coutume et de l'éducation. Rien n'est si rare qu'un esprit qui marche dans une route nouvelle. Mais parmi cette foule d'hommes qui vont de compagnie, chacun a de petites différences dans la démarche que les vues fines aperçoivent. 45. Il y a donc deux sortes d'esprits. L'un de pénétrer vivement et profondément les conséquences des principes, et c'est là l'esprit de justesse. L'autre de comprendre un grand nombre de principes sans les confondre, et c'est là l'esprit de géométrie. L'usage veut, je crois, aujourd'hui qu'on appelle esprit géométrique l'esprit méthodique et conséquent. 46. La mort est plus aisée à supporter sans y penser que la pensée de la mort sans péril. On ne peut pas dire qu'un homme supporte la mort aisément ou malaisément quand il n'y pense point du tout. Qui ne sent rien ne supporte rien. 47. Nous supposons que tous les hommes conçoivent et sentent de la même sorte les objets qui se présentent à eux. Mais nous le supposons bien gratuitement, car nous n'en avons aucune preuve. Je vois bien qu'on applique les mêmes mots dans les mêmes occasions, et que toutes les fois que deux hommes voient par exemple de la neige, ils expriment tous deux la vue de ce même objet par les mêmes mots, en disant l'un et l'autre qu'elle est blanche. Et de cette conformité d'application, on tire une puissante conjecture d'une conformité d'idées, mais cela n'est pas absolument convaincant, quoiqu'il y ait lieu à parler pour l'affirmative. Ce n'était pas la couleur blanche qu'il fallait apporter en preuve. Le blanc, qui est un assemblage de tous les rayons, paraît éclatant à tout le monde, éblouit un peu à la longue, fait à tous les yeux le même effet. Mais on pourrait dire que peut-être les autres couleurs ne sont pas aperçues de tous les yeux de la même manière. 48. Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment. Notre raisonnement se réduit à céder au sentiment en fait de goût, mais non, en fait de science. 49. Ceux qui jugent d'un ouvrage par règle sont à l'égard des autres comme ceux qui ont une montre à l'égard de ceux qui n'en ont point. L'un dit « Il y a 2 heures que nous sommes ici », l'autre dit « Il n'y a que 3/4 d'heure ». Je regarde ma montre et je dis à l'un « Vous vous ennuyez » et à l'autre « Le temps ne vous dure guère. » En ouvrage de goût, en musique, en poésie, en peinture, c'est le goût qui tient lieu de montre, et celui qui n'en juge que par règle en juge mal. 50. César était trop vieux, ce me semble, pour s'aller amuser à conquérir le monde. Cet amusement était bon, Alexandre, c'était un jeune homme, qu'il était difficile d'arrêter, mais César devait être plus mûr. L'on s'imagine d'ordinaire que Alexandre et César sont sortis de chez eux dans le dessein de conquérir la terre. Ce n'est point cela. Alexandre succéda à Philippe dans le généralat de la Grèce et fut chargé de la juste entreprise de venger les Grecs des injures du roi de Perse. Il battit l'ennemi commun et ses conquêtes jusqu'à l'Inde, parce que le royaume de Darius s'étendait jusqu'à l'Inde, de même que le duc de Marlborough serait venu jusqu'à Lyon sans le maréchal de Villars. À l'égard de César, il était un des premiers de la République. Il se brouilla avec Pompée, comme les jansénistes avec les molinistes. Et alors, ce fut à qui s'exterminerait ? Une seule bataille où il n'y eut pas 10 000 hommes de tués décida de tout. Au reste, la pensée de M. Pascal est peut-être fausse en tout sens. Il fallait la maturité de César pour se démêler de tant d'intrigues, et il est étonnant qu'Alexandre, à son âge, ait renoncé au plaisir pour faire une guerre si pénible. 51. C'est une plaisante chose à considérer de ce qu'il y a des gens dans le monde qui, ayant renoncé à toutes les lois de Dieu et de la nature, s'en sont fait eux-mêmes, auxquels ils obéissent exactement, comme par exemple les voleurs, etc. Cela est encore plus utile que plaisant à considérer, car cela prouve que nulle société d'hommes ne peut subsister un seul jour sans règles. 52. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Qui veut détruire les passions au lieu de les régler veut faire l'ange. 53. Un cheval ne cherche point à se faire admirer de son compagnon. On voit bien entre eux quelque sorte d'émulation à la course, mais c'est sans conséquence, car étant à l'étable, le plus pesant et le plus mal taillé ne cède pas pour cela son avoine à l'autre. Il n'en est pas de même parmi les hommes. Leur vertu ne se satisfait pas d'elle-même, et ils ne sont point contents s'ils n'en tirent davantage contre les autres. Bon, l'homme le plus mal taillé ne cède pas non plus son pain à l'autre, mais le plus fort l'enlève au plus faible. Et chez les animaux et chez les hommes, les gros mangent les petits. 54. Si l'homme commençait par s'étudier lui-même, il verrait combien il est incapable de passer outre. Comment se pourrait-il faire qu'une partie connût le tout ? Il aspirera peut-être à connaître au moins les parties avec lesquelles il a de la proportion. Mais les parties du monde ont tout un tel rapport et un tel enchaînement l'une avec l'autre que je crois impossible de connaître l'une sans l'autre et sans le tout. Il ne faudrait point détourner l'homme de chercher ce qui lui est utile par cette considération qu'il ne peut tout connaître. Non possis oculo quantum contenderi linceus, non tamenit circo contemnas lipus inungi. Nous connaissons beaucoup de vérités, nous avons trouvé beaucoup d'inventions utiles. Consolons-nous de ne pas savoir les rapports qui peuvent être entre une araignée et l'anneau de Saturne, et continuons à examiner ce qui est à notre portée. 55. Si la foudre tombait sur les lieux bas, les poètes et ceux qui ne savent raisonner que sur les choses de cette nature manqueraient de preuves. Une comparaison n'est preuve ni en poésie ni en prose. Elle sert en poésie d'embellissement et en prose, elle sert à éclaircir et à rendre les choses plus sensibles. Les poètes qui ont comparé les malheurs des grands à la foudre qui frappe les montagnes feraient des comparaisons contraires si le contraire était. 56. C'est cette composition d'esprit et de corps qui a fait que presque tous les philosophes ont confondu les idées des choses et attribué au corps ce qui n'appartient qu'aux esprits et aux esprits ce qui ne peut convenir qu'au corps. Si nous savions ce que c'est que l'esprit, nous pourrions nous plaindre de ce que les philosophes lui ont attribué ce qui ne lui appartient pas. Mais nous ne connaissons ni l'esprit ni le corps. Nous n'avons aucune idée de l'un et nous n'avons que des idées très imparfaites de l'autre. Donc, nous ne pouvons savoir quelles sont leurs limites. 57. Comme on dit beauté poétique, on devrait dire aussi beauté géométrique et beauté médicinale. Cependant, on ne le dit point. Et la raison en est qu'on sait bien quel est l'objet de la géométrie et quel est l'objet de la médecine, mais on ne sait pas en quoi consiste l'agrément qui est l'objet de la poésie. On ne sait ce que c'est que ce modèle naturel qu'il faut imiter, et à faute de cette connaissance, on a inventé de certains termes bizarres, siècle d'or, merveille de nos jours, fatal laurier, bel astre, etc., et on appelle ce jargon beauté poétique. Mais qui s'imaginera une femme vêtue sur ce modèle verra une jolie demoiselle toute couverte de miroirs et de chaînes de laiton. Cela est très faux. On ne doit pas dire beauté géométrique ni beauté médicinale, parce qu'un théorème et une purgation n'affectent point les sens agréablement, et qu'on ne donne le nom de beauté qu'aux choses qui charment les sens, comme la musique, la peinture, l'éloquence, la poésie, l'architecture régulière, etc. La raison qu'apporte M. Pascal est tout aussi fausse. On sait très bien en quoi consiste l'objet de la poésie. Il consiste à peindre avec force, netteté, délicatesse et harmonie. La poésie est l'éloquence harmonieuse. Ah, il fallait que M. Pascal eût bien peu de goût pour dire que fatal laurier, bel astre et sottise sont des beautés poétiques. Et il fallait que les éditeurs de ses pensées fussent des personnes bien peu versées dans les belles lettres pour imprimer une réflexion si indigne de son illustre auteur. Je ne vous envoie point mes autres remarques sur les pensées de Pascal, qui entraînerait des discussions trop longues. C'est assez d'avoir cru apercevoir quelques erreurs d'inattention dans ce grand génie. C'est une consolation pour un esprit aussi borné que le mien d'être bien persuadé que les plus grands hommes se trompent comme le vulgaire.